L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Albert Lutz, membre du conseil d'administration de l'association Les Enfants de Tchernobyl. Il vient nous voir aujourd'hui en studio pour nous parler de l'association, de la recherche de familles d'accueil pour des enfants venus d'Ukraine cet été et de la vente d'œufs en bois appelée Pissanki, une opération baptisée 10 000 œufs pour les enfants de Tchernobyl. Albert Lutz, bonjour.
Bonjour.
C'est pas la première fois qu'on vous reçoit ici en
studio. Non, je suis déjà venu il y a 2 ans, je crois. Et voilà, je reviens à peu près pour le même sujet, c'est-à-dire que on est en train de préparer pour l'été l'accueil des enfants. Donc depuis 1993, l'association accueille des enfants qui habitent dans la zone contaminée autour de la centrale de Tchernobyl. Donc voilà, des enfants qui normalement personne ne devrait habiter là-bas parce que c'est contaminé, mais malheureusement, là, les enfants y sont. Et là, en plus des conséquences de l'accident, de la contamination des sols et de tout ce que ça induit, ben, y a la guerre qui s'est rajoutée et qui aggrave la situation pour les enfants, quoi. Puisque, alors, là où sont les enfants, ils ne sont plus en zone de guerre. Ils y étaient tout au début du conflit, les 2 premiers mois, ou 3 premiers mois du conflit. Entre-temps, les troupes ukrainiennes ont repoussé les Russes. Mais par contre, ils sont sur la ligne nord-sud de toutes les attaques qui viennent. Donc, ils sont survolés régulièrement par des drones, des missiles, etc. Donc, je vous laisse imaginer les nuits tranquilles que peuvent passer ces enfants avec les bruits des drones qui passent au-dessus de leur tête, et puis de temps en temps certains qui tombent, pas parce qu'ils devaient cibler les petits villages en question, mais parce qu'ils sont abattus par les forces ukrainiennes pour s'en protéger, quoi.
Et le spectre également d'un suraccident de cette centrale de Tchernobyl, à un moment donné, il en a été question.
Ah ben, ça reste d'actualité. Il y a eu d'ailleurs un missile qui a touché le dôme qui a été construit. Donc il y a eu une première protection autour de la centrale, mais qui était en très mauvais état. Et donc il y a eu un deuxième dôme qui a été construit dessus, financé pour beaucoup, principalement par l'Europe, et qui a été touché, donc dans lequel maintenant il y a un trou. Alors il y a eu, je crois, des réparations provisoires, mais enfin, en tout cas, la preuve est là que tout peut arriver, quoi.
Ces enfants, ils sont au nombre de combien que alors, vous allez accueillir et que vous avez accueilli l'an dernier? Ce ne sont pas forcément les mêmes?
Non, alors il y aura 50 enfants, c'est-à-dire que du fait de la guerre, on a dû changer notre stratégie. Auparavant, les enfants venaient par avion. Maintenant, et donc à ce moment-là, on n'avait pas de quota absolu. Là, maintenant, ils viennent par bus et donc on a un quota, on est limité à 50. Donc il y a 50 enfants qui vont venir. Il y en a une grosse moitié qui sont des enfants qui reviennent, c'est-à-dire qui sont déjà venus l'an dernier et dont les familles ont souhaité réaccueillir l'enfant.
Donc ils reviennent dans les familles,
effectivement. Ils reviennent dans la même famille, c'est ça.
Vous avez des familles un peu historiques qui accueillent depuis
des années? Ah, il y a des familles qui accueillent depuis très très longtemps, qui ont accueilli déjà plusieurs enfants, puisque bon, les enfants peuvent venir jusqu'à leurs 18 ans. Après, ils ne peuvent plus venir dans le cadre de l'association. Alors, il y en a qui continuent de venir directement avec les familles en lien, mais dans le cadre de l'association, c'est jusqu'à 18 ans. Et donc, il y a des familles qui, effectivement, ont accueilli plusieurs enfants, soit là dans la fratrie ou alors carrément d'autres enfants. Il y a tous les cas de figure, quoi. Et donc, il y a des enfants qui viennent qu'une fois. Il y en a d'autres qui viennent pratiquement 10 fois.
Forcément, il y a des liens qui se créent. Alors, Albert Lutz, vous avez accueilli une petite Ukrainienne pendant des années. Aujourd'hui, elle est venue se réfugier au début de la guerre chez vous. Aujourd'hui, elle est installée à Strasbourg avec un diplôme et elle travaille.
Exactement. Elle est venue chez nous à partir de 2014. Elle est venue chez nous. Tout s'est arrêté au moment du Covid, puisque à un moment donné, on n'a plus pu accueillir. Le réaccueil devait recommencer en 2022, puisque la crise Covid était passée et la guerre a débuté, donc tout est tombé à l'eau en 2022. Par contre, donc Yafa, elle s'appelle Yafa, est venue chez nous Au bout d'un mois, elle est venue se réfugier chez nous. Et puis, bon, on a eu voilà, des discussions avec elle. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vois les choses? Et bon, comme son souhait, c'était plutôt de rester, même si ce n'était pas complètement sûr au début, évidemment. Elle a choisi de faire un apprentissage de coiffeuse. Donc, elle a passé et réussi un CAP de coiffeuse. Et donc, elle est restée chez nous à peu près 2 ans et demi. Et là, depuis l'été dernier, elle est installée à Strasbourg. Elle a un logement. Là, maintenant, elle a un copain. Enfin, voilà, elle s'installe dans la vie. Voilà, une vie normale de jeune femme.
Vous la considérez comment? Comme un membre de votre famille?
Ah oui, c'est notre quatrième, c'est notre quatrième enfant. Oui, elle fait entièrement partie de la famille. Et pour nos enfants, c'est leur sœur, quoi. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein.
Alors, on va revenir à la genèse de l'accueil de ces enfants, la raison pour laquelle ces 3 semaines de vacances ici en Alsace et dans les départements limitrophes leur amènent un bienfait. En fait, l'idée, c'est de purifier leur organisme qui est porteur de césium-137 en lien avec la radioactivité de la région d'où ils viennent.
En effet, le césium-137, qui est le contaminant principal qu'on arrive à détecter et qui est toujours très présent dans le sol, et donc via le sol, il est présent dans les plantes, chez les animaux qui mangent les choses. Et comme les gens qui vivent dans ces villages, pour la plupart, sont des familles très pauvres. Et donc, beaucoup vivent en utilisant les ressources, soit du jardin. Donc, ils ont un jardin, ils ont un potager, ils ont des arbres fruitiers, ils élèvent des animaux, donc de la volaille, certains des cochons, voire une vache pour les plus riches, entre guillemets. Okay. Et puis, beaucoup de cueillettes. Et et notamment, ce qui est pratiquement le pire, c'est bon, les champignons et les baies qui poussent très bien chez eux, malheureusement. Et donc, ils en consomment beaucoup parce que voilà, ça ne coûte rien. Et c'est extrêmement contaminé. Donc, leurs corps sont contaminés. On a pu le vérifier à maintes reprises puisque jusqu'à la guerre, on faisait régulièrement des mesures sur les enfants. On mesurait avant et après leur charge en césium. Et on a pu constater des diminutions en moyenne de 30%, mais qui pouvaient aller jusqu'à 50%. En fait, après, c'est des histoires de configuration individuelle de chaque enfant. Les 3 semaines n'enlèvent pas tout, évidemment. Oui. Hein. Ça permet de donner une bulle d'oxygène. Il y a un double effet. Il y a l'effet sanitaire, effectivement, où la contamination, on sait qu'elle diminue, on l'a vérifié. Et il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect les sortir de leur environnement, leur faire découvrir autre chose que leur petit village. Hein. Et donc, ces deux aspects, en fait, il y a l'aspect sanitaire et l'aspect vacances, quoi. Et découverte du monde, parce que c'est quand même un autre monde, même si aujourd'hui, avec Internet, il y a accès à de l'information, mais entre l'information qu'on peut trouver sur Internet, sur son téléphone, et la réalité de la situation quand les enfants arrivent ici, c'est complètement autre chose, quoi. Et donc, effectivement, il y a ces deux buts-là, quoi, pour ces enfants-là.
Et à terme, hein. Vous avez, vous, des retours sur les maladies qu'ils risquent de développer?
Alors, les maladies, oui. Alors, on travaille donc avec deux instituts scientifiques et avec des hôpitaux et qui nous font donc... parce que il y a une volonté officiel d'étouffer les informations. Hein. Oui. Le problème, il n'y a plus de problème, hein, en fait, à Tchernobyl. Hein. D'ailleurs, juste avant la guerre, ils avaient commencé à faire du tourisme autour de la centrale avec des visites guidées. Voilà. Hein. Et donc, l'indépendance de notre association nous permet de publier régulièrement, d'aider des scientifiques à publier des études qui prouvent que les enfants, ben, ils ont des risques. Alors, c'est notamment dans tout ce qui est patrimoine génétique qui est impacté, les problèmes de procréation, d'hérédité, les systèmes immunitaires qui sont défaillants. Donc, les enfants qui viennent sont en bonne santé apparente, on va dire. Personne, les enfants malades ne viennent pas. On ne peut pas se permettre de faire sortir de l'Ukraine des enfants malades. Donc les enfants, ils sont en bonne santé, mais ils ont cet affaiblissement dans leur corps. Hein, et ce risque, alors je ne veux pas dire de combien de fois ils ont plus de risques que nos enfants à nous d'avoir des problèmes de santé. Ce séjour, c'est important pour ces enfants, pour les remettre un petit peu au carré, et puis essayer aussi, il y en a comme je citais la jeune femme, la jeune fille qui est venue chez nous, eh ben il y en a d'autres qui ont pu s'ouvrir des horizons. Elle a fait un CAP, mais il y a d'autres enfants qui sont venus après, quand ils étaient ados, ils sont venus faire leur cours secondaires et même l'université en France avec l'aide de la famille d'accueil qui les a accueillis pendant quelques années. Voilà, il y a un peu toutes les situations, quoi.
Vous menez également des actions d'aide envers les familles sur place. Vous mettez à disposition des bons alimentaires.
Exactement. C'est-à-dire, alors c'est pas des bons alimentaires. En fait, le choix qu'on a fait, c'est on achète en gros de la nourriture. Hein.
Oui.
Donc, l'an dernier, on a fait 5 distributions de nourriture. Donc, on va, en l'occurrence, c'est un Auchan à Kiev, hein, avec lequel on a pu monter un partenariat, parce que il faut aussi gérer les problèmes de flux financiers. Donc, avec cette société, on a pu trouver un accord où, effectivement, nos correspondantes sur place gère la commande et tout le matériel de tout, et on le paye, nous, de France, directement à Auchan. Et donc là, on achète de la nourriture en grande quantité pour un peu plus de 280 familles qui sont dans ce qu'on appelle notre périmètre, enfin voilà, les familles qu'on soutient. Et on livre directement de la nourriture et des produits d'hygiène également, un petit peu, qu'on livre directement dans les villages. Donc, c'est des palettes entières de marchandises qui partent. Et à chaque fois, c'est des grosses quantités. C'est l'équivalent de chaque fois de 70-80 euros par personne, enfin par famille, ce qui est un montant en Ukraine qui est conséquent. Voilà. Et donc, on a fait l'an dernier 5 livraisons. C'est parce que ces livraisons de nourriture permettent de fournir justement de la nourriture saine. Mmh. Hein, qui n'est pas la nourriture contaminée qui vient du potager ou du poulailler, quoi, voilà.
À terme, alors justement, c'est une question que je me pose qui pourrait presque revenir à une question précédente, mais jusqu'à quand il y aura cette contamination et des terres et de l'eau et des plantes? Alors, quand est-ce que la nourriture du potager va redevenir saine?
Le césium a une demi-vie de 30 ans, donc il y a 10 ans, on considère que la moitié du niveau de radiation, enfin de contamination, est parti. Et donc, on attaque maintenant la deuxième. Ça ne veut pas dire que dans 30 ans, tout est parti. Dans 30 ans, on aura enlevé la moitié de la moitié. C'est une courbe exponentielle et donc, chaque fois, on enlève la moitié de ce qui reste. Hein, donc, jusqu'à ce qu'on ait atteint le niveau qui devrait théoriquement être zéro, parce que le césium 137, dans la nature, ça n'existe pas. Hein. Tout le césium est le résultat des expérimentations qu'on a pu faire, que ce soit les accidents, ou les essais que, par exemple, la France a fait dans le Sahara, oui, ou ailleurs. Tout ce césium vient de là. Naturellement, il n'y en a pas. Hein. Alors après, il peut y avoir des discussions académiques sur le niveau à partir duquel, sachant que personne ne sait vraiment à partir de quel niveau on peut mesurer des conséquences quand on ça sur une durée de vie humaine, quoi.
Albert Lutz, évidemment, toutes ces actions, on va revenir au financement de ces actions, de faire venir les enfants, le transport, les nourrir pendant le transport et toutes les actions que vous mettez en place, ça a un coût. Et vous financez beaucoup avec cette opération 10 000 œufs pour Tchernobyl. Ce sont des œufs en bois, des pissenlits qui sont faits en Ukraine à la main. C'est un travail artisanal que vous vendez dans différents points de vente, là, à période de Pâques et de Pessah.
Oui, exactement. C'est une opération, donc c'est la 32e édition de l'opération. Donc elle se déroulera du 7 mars au 6 avril dans beaucoup de points de vente. Donc le moment venu, les personnes qui souhaitent acheter pourront trouver la liste des points de vente sur notre site internet, donc lesenfantsdetchernobyl@.fr. Le site est très facile à trouver, il n'y a pas de problème. Et donc... pour cette opération, donc on cherche évidemment des bienfaiteurs qui vont acheter des œufs, mais on a aussi besoin de bras pour les vendre. Donc, si vous souhaitez nous aider à vendre des œufs sur un marché, dans un commerce de proximité, autour de vous, c'est facile. Vous contactez Cédric qui gère l'opération. Donc, sur le site internet, vous trouverez tout. C'est comme les coordonnées, l'adresse mail, le téléphone. Vous trouverez tout ça sur notre site internet et, sans difficulté. Et donc, on a besoin de vendre un maximum de ces œufs parce que c'est l'axe principal de financement de notre association. Notre association, elle a trois modes de financement, la vente des œufs, les dons et les cotisations des membres. On ne touche pas de subventions du gouvernement, d'une commune, si très marginalement, on a quelques euros d'une ou deux communes dans le Haut-Rhin, mais on parle de quelques dizaines d'euros. La ressource principale, ouais, c'est bien la vente des œufs qui permet de financer les actions. Donc, je rappelle, on cherche des familles d'accueil. Donc ça, c'est un point important parce que donc il y a des enfants dont on a parlé qui reviennent de plusieurs années de suite, et puis tous les ans il y a des nouveaux enfants, et donc pour cela on cherche des nouvelles familles d'accueil, donc situées dans les 5 départements qui sont concernés. Et donc pour tous les renseignements, si vous voulez des détails sur comment ça se passe, etc., sur le site internet il y a des numéros de téléphone. N'hésitez pas à téléphoner et vous aurez les réponses à toutes vos questions pour vous informer sur qu'est-ce que ça implique d'accueillir un enfant.
Albert Lutz, donc je rappelle, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association Les Enfants de Tchernobyl, également très engagé au niveau de l'accueil des enfants. Vous l'avez fait un temps, vous avez raconté votre histoire, vous m'avez tiré une petite larme. Maintenant, pour être tout à fait honnête, merci à vous pour toutes ces actions au long cours et puis pour être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous pour votre accueil.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.